On m'a décrit parfois une sorte de psychose de l'espionnage dans ces débuts de guerre, justement, avec une sorte de suspicion vis-à-vis des Alsaciens. Est-ce que les Alsaciens étaient considérés comme...
Non, mais on n'était pas très sûr.
Ah oui.
Les groupes que nous voyions avant je vous dis avant la déclaration de guerre, je me souviens avoir vu des troupes, on avait l'impression que c'était des touristes, mais c'était des Alsaciens. Et les Alsaciens n'avaient pas du tout, à notre égard, la même mentalité que les Allemands.
Non, de toute façon, quand vous étiez en Alsace, donc pendant le premier mois de guerre, vous étiez accueilli
Très, très bien
comme entière
accueilli,
française.
très bien accueilli.
Ça, c'est tout de même très frappant, cette mentalité des populations civiles qui ont accueilli à bras ouverts les Français.
Oui. Et qui étaient à ce moment-là leurs ennemis.
Oui. C'est vrai qu'ils étaient leurs ennemis puisqu'ils étaient statutairement
Bien
allemands.
sûr, bien sûr.
Bien sûr. Et.
Et après la dernière guerre, lors de l'occupation nazie en Allemagne, les Alsaciens ont été mobilisés aussi. Et en 1950, j'ai été ministre des Travaux publics. Et comme ministre, j'ai été ministre des Travaux publics et des Transports. Et j'ai eu un problème difficile à régler, qui était celui des Alsaciens qui avaient été mobilisés.
Les fameux malgré nous.
Et c'est ça. Et que mes prédécesseurs avaient refusé d'amnistier. Et je me souviens, quand je suis arrivé au ministère des Travaux publics, il y avait le cas de 6 000 anciens cheminots. Qui avaient été rayés de la SNCF parce qu'ils avaient été mobilisés par les Allemands. Et un jour, j'ai pris un décret et je les ai tous réinstallés à la SNCF.
Ça a dû être une mesure d'apaisement qui était appréciée en Alsace,
Je me
j'imagine.
fais critiquer, mais enfin, j'ai été approuvé, largement approuvé.
Donc en fait, ces populations étaient heureuses de vous voir.
Bien
Ces
sûr, bien
populations.
sûr. Oh ben, ils avaient l'impression que c'était la délivrance.
Oui. Et alors, plus tard, comment avez-vous... D'abord, comment jugiez-vous l'allemand en général? Comment le soldat français jugeait-il l'allemand?
Mais comme un pauvre type qui était mobilisé, qui venait se faire tuer ou nous tuer sans savoir trop pourquoi.
C'est ce que me disent tous ceux qui en ont approché de près d'une certaine
Bien sûr.
manière. Et ce qui me frappe aussi, mais j'aimerais avoir votre sentiment là-dessus, c'est que les gens donc très simples que j'ai rencontrés font une sorte de hiérarchie des soldats, des valeurs militaires, au sommet desquelles ils placent l'allemand et le français. Et puis ensuite, on a bien en dessous l'anglais. Comment expliquer, partager, avez-vous déjà vu ce sentiment exprimé par vos hommes? Et comment expliquez-vous que l'anglais est placé en
Mais je
dessous?
l'ai constaté. Mais l'anglais est un bitunil, il n'a jamais fait la guerre comme nous, ses frontières n'ont jamais été violées, c'était très différent. Il n'était pas en contact avec l'allemand comme nous.
Mais alors, ce que l'on considère, malgré le fait que l'allemand soit ennemi, qu'on veut bien lui accorder la même valeur guerrière qu'aux Français, comment
Mais
l'expliquez-vous?
parce que tout le monde se rendait très bien compte que c'était un adversaire qu'il n'était pas facile de battre.
Alors que l'anglais n'avait pas la même valeur.
Sûrement pas. Sûrement pas.
C'était aussi l'opinion de vos hommes. C'est parce que
Donc
c'est quelque chose que je rencontre
c'était
constamment.
l'opinion générale.
C'était l'opinion générale. Et quelle était l'opinion, alors pas à votre époque évidemment, puisqu'ils n'étaient pas rentrés en guerre, mais après, concernant les Américains?
Les Américains ont été considérés comme des gens courageux, peut-être moins expérimentés à la guerre que nous. C'est la raison pour laquelle ils ont eu beaucoup de pertes, mais ils étaient considérés comme des gens très courageux. Puis alors, le fait de traverser l'océan pour venir défendre une terre qui n'était pas la leur, c'était un signe de courage qui suscitait une espèce d'admiration de la part des Français.
Et les Anglais traversaient pourtant la Manche. Et alors là, on a
Oui,
vraiment deux traitements.
ils étaient européens comme nous, ils étaient très près de nous, ils avaient les mêmes intérêts que nous, mais ils n'avaient pas le même enthousiasme, le même. Ils parlaient la langue des Américains, ils étaient plus américains qu'européens.
Et avez-vous constaté une sorte de mépris vis-à-vis du soldat italien?
Dans la dernière guerre, oui.
Même dans la première, d'après des témoignages que j'ai eus, où ils étaient pourtant nos alliés. Tardif.
Vous savez, ce sont des... On les considérait comme des joueurs de des guitares, quoi, plutôt que comme des combattants.
Et quel est votre avis sur cette psychologie des peuples que tous les Français ont vis-à-vis de leurs voisins, finalement, en temps de guerre et à d'autres moments? Est-ce que vous pensez que ce sont des préjugés ou que c'est fondé sur
C'est sûrement,
des réalités?
ça a sûrement un fondement. Il y a un fondement, il y a, ça n'est pas sans raison que qu'on a établi cette croyance.
J'ai été très frappé aussi par le rôle très important que la religion jouait dans le soutien du moral des soldats. Avez-vous été témoin de faits de piété ou de gens portant sur eux un scapulaire ou portant sur eux une médaille
Oui,
sainte?
les gens portaient en effet des médailles et y tenaient.
Oui, on m'a plusieurs fois montré de précieuses reliques que l'on portait sur soi.
Mais moi j'en ai, que ma mère m'avait donné quand je suis parti à la guerre.
Voilà, c'est toujours les mères qui l'ont donné.
Et je les ai gardées, je les ai toujours.
Ouais. Et vous les portez constamment sur vous?
Sur moi, oui.
Mais en souvenir de votre mère ou...
En souvenir de ma mère, oui. J'avais un culte pour ma mère. Oui.
Dont vous dites que c'était une sainte femme à Monsieur Veil.
C'était une sainte. Ouais. Et mon père était dans le patriotisme. Échevelé. Quand j'ai eu une première convalescence, j'ai eu 6 mois de convalescence. Et alors je donnais l'impression à tout le monde que j'allais bien. Alors il me dit un jour, qu'est-ce que tu penses faire? Je dis, j'ai 6 mois de convalescence, encore 3 mois, je vais épuiser ma convalescence. Il me dit, ça ne te dit rien d'apprendre tous les jours, un tel est mort, un tel est blessé, un tel est prisonnier. J'ai dit, mais moi j'ai fait mon devoir. Il dit, mon petit, on n'a jamais fait tout son devoir. Il reste toujours quelque chose à faire. Fais-moi plaisir, rentre au dépôt. Tu peux encore rendre des services. Je suis rentré au dépôt où on m'a renvoyé en me disant que vous avez une blessure, vous avez 6 mois de convalescence.
Oui, personne ne songeait à échapper à son devoir, même quand il l'avait fait.
Oui.
C'était une mentalité tout de même de ce début de siècle, on était pénétré des grandes valeurs.
Mais je me souviens même un jour, mon père, à qui je disais, on a fait son devoir. Mon père m'avait dit, on n'a jamais fait tout son devoir. Moi, j'aimerais mieux de pleurer toute ma vie parce que tu es mort en faisant ton devoir que de rougir de toi parce que tu n'as pas fait tout ton devoir.
C'est beau comme phrase. On croirait entendre du Corneille, mais le fait que ça ait été prononcé, c'est admirable. Et pensez-vous que le culte de Jeanne d'Arc est joué pour beaucoup dans cette...
Je ne sais pas si les gens remontaient jusque-là, mais il y avait le climat général de l'époque. Oui. Les instituteurs dans les écoles vous prêchaient le patriotisme. Les gens de gauche étaient patriotes. Il n'y avait pas cet antimilitarisme et cet antinationalisme actuel.
Le combattant dont je vous parlais, qui... Monsieur Ferret de la classe 15, me disait, je vouais, moi, dès avant mon départ, une grande admiration à Jeanne d'Arc. Je faisais partie de la confrérie et je portais une médaille. Mais beaucoup semblaient porter des médailles ou des scapulaires, donc.
Oui, beaucoup, beaucoup portaient des médailles. Oui, beaucoup avaient une petite chaîne avec une médaille sur eux.
Et y avait-il des offices religieux que vous pouviez suivre pendant les opérations?
Pas pendant la guerre. Au régiment, oui. Mais pendant la guerre, non.
Lorsque vous, donc, vous étiez à l'hôpital jusqu'en 16 ou en 17?
Jusqu'en 17.
Jusqu'en 17.
Oui.
Est-ce qu'il y a eu des échos de ces révoltes de 17 parmi les populations?
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui. Mais qui ont été vite, vite calmés, vite...
Et comment cela a été perçu par l'opinion publique? Puisque, enfin, vous n'étiez pas l'opinion publique, puisque vous étiez à l'hôpital militaire.
Oui. Les gens n'étaient pas favorables, on n'admettait pas ça. Mais enfin, on concevait très bien qu'il y avait certains mécontentements. On était montés contre ce qu'on appelait les embusqués. Mmh. On était très montés contre ceux-là. Alors, il y a eu, lorsque les révoltes de 1916 s'est produite à l'arrière, il y a eu... quelques personnes qui les approuvaient, mais d'une façon générale, on les regrettait.
Et comment pouvait-on concrètement être embusqué? On pouvait l'être tout de même. Il y en avait, ça n'était pas un mythe.
Oh, sûrement, il y en avait. Vous avez des gens dont les parents allaient trouver les parlementaires pour les faire mettre en affectation spéciale dans des usines.
Mmh. Sans qu'ils aient aucune compétence.
Bien sûr. Et puis alors vous en avez qui avaient des certificats médicaux.
Ça fait partie de l'amertume de ce que j'ai constaté, oui. Effectivement. Ces embusqués de l'arrière. Et là, est-ce que la dureté de l'hiver, par exemple, je crois que l'hiver de 16 à 17 a été extrêmement,
très, très dur,
extrêmement
oui.
dur, extrêmement rigoureux, était donnée comme une explication, notamment, de cette espèce de résignation, ou bien même de révolte des gens de début 17, là. Et puis le fait que la guerre durait depuis 3 ans.
C'est surtout ça. C'était la durée de la guerre, c'était des pertes très dures, éprouvées par certains régiments d'infanterie, et puis alors des gens qui s'embusquaient pour ne pas repartir.
Et les soldats qui revenaient en permission, parlaient-ils de leur guerre? Est-ce qu'il vous arrivait, vous, à l'hôpital, par exemple, d'en voir, qui vous donne des nouvelles du front?
Oh, bien sûr, mais on les leur demandait plus qu'ils ne les donnaient eux-mêmes. Parce que les gens qui revenaient, mais autant ne pas en parler.
Vous pensez qu'il y avait une certaine pudeur?
Oui.
À en parler.
Attends, vous savez, ce climat difficile de me rappeler maintenant, parce
oui,
qu'au
bien
fond,
sûr, bien sûr.
Depuis 17, ça fait 70 ans.
C'est très loin. Mais j'essaie de voir comment les nouvelles pouvaient passer, et c'est vrai qu'il semble y avoir... Enfin, on a l'impression que les soldats n'acceptent d'en parler qu'à des soldats, qui eux-mêmes avaient vécu la chose.
Oui, c'est ça. Il y avait une espèce de fraternité entre les militaires qui revenaient de la guerre, les gens qui avaient été blessés, et les autres.
Et comment étiez-vous considéré, vous, par les gens en tant que blessé de guerre?
Bien.
Bien, je suppose.
Oui, oui, bien.
Parce que j'ai trouvé aussi une certaine amertume parmi les gens qui ont été blessés, disant que, tout à fait au début, on les a considérés un peu comme des héros, et après ça s'est très vite estompé. Est-ce que vous avez eu ce sentiment-là?
Oui, ça s'est très vite estompé. La guerre durait trop, il y avait trop de victimes. Oui, sûrement, ça s'est estompé. Mais au début, on était très, 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 très bien considérés.
Oui. Donc ça a pu créer une sorte d'amertume vis-à-vis d'une sorte d'oubli de ce qu'on avait fait.
Pas beaucoup, un petit peu, mais pas beaucoup. Vous savez, moi, je reste très admiratif de la mentalité de la population pendant les premières années de guerre.
La population qui a tenu?
La population de l'arrière, oui, a tenu. Les paysans ont été les grandes victimes de la guerre. Ils étaient tous fantassins, oui. Presque tous fantassins. Ils ont subi des pertes effroyables.
Comment c'est-il qu'ils étaient plus fantassins qu'artilleurs? Parce qu'ils n'avaient pas de compétences particulières?
Et ils ne demandaient rien du tout. Et comme il y avait, quand on recrutait des gens, sur 10 hommes, il y avait 9 fantassins. Moi, je me demande comment j'ai été choisi, j'ai été envoyé dans l'artillerie. Je crois que j'ai été envoyé dans l'artillerie parce que j'avais un permis de conduire automobile.
Ah oui. C'était une compétence appréciable à l'époque, et rare, je crois.
Et rare, mon permis de conduire est de 1912.
Donc vous n'étiez pas très nombreux à avoir le permis?
Nous n'étions pas très nombreux, et on me l'avait demandé quand au moment du conseil de révision. Et je crois que c'est ce qui m'a fait désigner dans l'artillerie.
Mais vous n'avez pas eu à conduire de véhicule tout de même?
Jamais. Jamais. Enfin, c'était une réserve, il y avait l'artillerie et le génie avait des camions automobiles.
Donc, quel était votre grade, monsieur le président, à l'entrée?
Maréchal des logis.
Maréchal des logis.
C'est-à-dire l'équivalent du sergent dans l'infanterie.
Et comment se faisaient les promotions pendant la guerre de 14? Sur des faits de bravoure?
Vous savez, les gens qui étaient maréchal des logis comme moi, j'en ai eu qui sont revenus comme commandant ou lieutenant-colonel ou capitaine très nombreux. Au début de la guerre, on m'a offert de passer au chasseur alpin comme sous-lieutenant.
Et pourquoi n'avez-vous pas voulu aller dans les chasseurs?
Je ne voulais pas quitter mes camarades. Oui. Parce que arriver chez des chasseurs à pied, où je ne connaissais personne, ça ne me séduisait pas. m'amusait pas du tout, alors que j'étais très attaché à mes hommes dans ma batterie. Je connaissais bien mes officiers aussi. C'est pour ça que je n'ai pas voulu.